Code of Philosophy Ethique, de Père Marie-Dominique Philippe, le 18 mai, l'an 2000 à Saint-Gédard.
Qu'est-ce que c'est que la responsabilité morale? Vous en avez l'expérience, j'espère. Peut-il y avoir une responsabilité morale sans la découverte de la finalité? Il peut y avoir une responsabilité morale imparfaite sans la finalité. Le volontaire est moral. C'est tout acte fait volontairement est moral et responsable. Alors, la responsabilité, c'est le fait que l'acte qu'on a posé, c'est un acte qu'on aurait pu ne pas le poser. Donc, on en a le pouvoir de le poser. On l'a posé volontairement. C'est touché au volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le volontaire? Puisque, je crois, s'il n'y avait pas de volontaire, il n'y aurait pas de responsabilité. Et la responsabilité va exactement au niveau du volontaire. Quand vous êtes pleinement volontaire, pleinement conscient d'un acte volontaire, vous en êtes parfaitement conscient, au point de vue responsabilité. Oui. On est responsable parce que ça dépend de nous. Nous en sommes cause, nous en sommes principe. Cet acte n'aurait pas lieu si on n'était pas là. Et cet acte est arrivé à cause de nous. Donc, ça touche la causalité de l'acte, responsabilité. Je suis parfaitement cause. Cet acte vient de moi. Et c'est pour ça que j'en suis responsable. Alors, la volonté, elle naît à partir de la fin, de la finalité. Partir de l'amour. La fin, c'est un bien absolu qui attire et qui produit en moi cet amour. Donc, le volontaire provient de la volonté, capacité d'aimer. Donc, tout acte volontaire est un acte d'amour. Plus ou moins conscient, plus ou moins parfait, plus ou moins réaliste, et toute la gamme. Et le volontaire accompagne toute notre vie. Avec des modalités très différentes. Il y a en nous deux grandes orientations spirituel, l'intelligence, c'est fondamental et ça structure toute ma vie, et le volontaire qui donne cette espèce de dynamisme, de force et d'élan. Alors, comme c'est volontaire, acte d'amour, c'est toujours extatique, on tend vers. Et le volontaire, cet homme a dit, la paix. Appetitus spirituel, c'est un appétit. Radicalement, c'est une tendance vers, consciente, parce que spirituelle, vers la fin. Alors, quand on se pose la question, est-ce que peut-on y avoir une responsabilité morale sans la découverte de la finalité, sans l'acte? La découverte, je dirais plus que ça, sans l'acte d'attraction de la fin. cette attraction de la fin est radicale. Elle est plus ou moins consciente, plus ou moins forte, plus ou moins habituelle, parce que on a eu cette attraction vers la fin, ce désir d'orienter toute ma vie vers... Et puis, il y a des actes qui viennent, et c'est moins actuel, alors c'est habituel. Rien n'est supprimé, cette orientation vers la fin. C'est une orientation habituelle. Vous offrez votre vie, votre journée au Seigneur, toute la journée. L'espace et quantité de toutes choses, mais c'est habituel. Alors, en réalité, le volontaire prend naissance avec la finalité. Donc, le volontaire est toujours lié à la fin. Mais ce lien à la fin a des modalités extrêmement variées, a des plus ou moins lâches. C'est, si vous voulez, une tension plus ou moins grande. Je suis plus ou moins attiré. Et cette attraction a pu se faire le matin en acte. Puis, il dit, quand c'est d'activité, entre deux, elle n'est plus très vive, forte. Et la responsabilité demeure. Oui. On doit comprendre la responsabilité de, en réfléchissant sur ce que c'est. Je crois que chacun d'entre vous, vous avez quand même l'expérience de la responsabilité. Parce qu'on a envie de dire, celui qui n'a jamais eu cette expérience, qui lève la main, j'en verrai aucun. Je suis sûr que si je pose la question, personne ne lèverait la main. Depuis quand avez-vous eu sens? Alors ça dépend beaucoup. Au fond, l'âge de raison, c'est quand on parle de... C'est la responsabilité. C'est la responsabilité de son acte. C'est ça, c'est l'acte de raison. Oui. Au point de vue chrétien, quand on commence à se confesser, c'est le premier acte où il a refusé de faire ce qu'on lui demandait de faire. Ce que sa maman lui avait demandé de faire, il a refusé. Ce que son père lui avait fait, ce que le grand frère a demandé. Il a refusé. Il a dit non. Et c'est très vrai que la négation augmente énormément le sens de la responsabilité. Très souvent, c'est parce qu'on a nié. On s'est dit, j'aurais dû le faire. J'aurais pu le faire. Mais on a suspendu. Comme toujours, la négation est un repli sur soi. Et donc augmente la conscience qu'on a de l'acte. Et c'est à cause de ça qu'on dit qu'il est première, tout simplement. Parce que subjectivement, c'est vrai qu'elle nous donne une conscience beaucoup plus aiguë. Et au point de vue moral, c'est surtout dans la désobéissance qu'on comprend ça. Dans la désobéissance, il y a un acte plus net, conscient. Mais on voit ça très fort chez les enfants. Parce que quand il n'y a pas eu de désobéissance, quand c'est un acte de gourmandise, la confiture était tellement bonne. C'est très difficile de voir le moment où il y a un excès. Dire que la confiture est bonne, c'est pas un péché. C'est tout simplement constater qu'elle est bonne. et qu'on a bon goût, et que ça nous fait plaisir. C'est pas un péché. L'affectivité en elle-même n'est pas un péché. C'est l'exagération qui est un péché. C'est le super. Et s'arrêter à ça. Aller au-delà de la mesure normale. Et l'affectivité comme telle n'est pas mauvaise. Les passions ne sont pas mauvaises. Quand vous sentez qu'il y a une injustice faite à quelqu'un de faible, de petit, et vous sentez tout de suite votre irascible qui se lève, c'est pas mauvais. L'éveil de l'irascible n'est pas une faute. Tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. C'est l'excès. Et c'est seulement l'excès qui est faute. Et ça se voit beaucoup moins. Parce qu'il y a déjà une passion. Et la passion n'est pas lumineuse. Elle n'est pas claire. C'est une passion trop grande. Mais comme la passion n'est pas lumineuse, on est déjà dans l'obscurité. Et on ne voit pas très bien le trop grand, le super. Celui qui regarde ça de l'extérieur s'en aperçoit. Mais celui qui est dedans, non. Surtout que très souvent, les passions s'éveillent avec les passions. Il y a eu avant une passion autre, mais il y a eu une passion qui avait la passion. On verra ça, c'est très important, ces choses-là, pour l'éducation et pour l'auto-éducation de nous-mêmes. On doit comprendre qu'on a en soi la passion du concupiscible et la passion de l'irascible. Le de anima, on doit le savoir, ça. Et on doit avoir insisté à l'éveil du concupiscible en nous. Et à l'éveil de l'irascible. Et on doit savoir que il faut que la passion du concupiscible, comme celle du irascible, soit mesurée par la prudence. C'est notre prudence, notre intelligence pratique qui mesure le concupiscible et qui met dans le concupiscible un certain ordre et qui met dans l'irascible un certain ordre, une certaine lumière. Terminer en disant que nous constatons qu'il y a en nous trois niveaux d'actes volontaires. Le niveau humain, le niveau religieux, le niveau chrétien. Et c'est parce que il y a, avec le point de vue chrétien, une nouvelle finalité, qu'il y a une éthique chrétienne. C'est la seule partie philosophique que l'Église possède. L'Église a son éthique. Et c'est normal, parce qu'elle est responsable de l'homme. Au point de vue chrétien. Celui qui n'est pas chrétien peut dire que c'est pas. Mais le chrétien, c'est normal. Elle est responsable de ça. Et toute sa doctrine, de fait, doctrine contemplative, doctrine pratique, est toujours en vue de la sainteté, de l'individu. Atteindre le plus grand degré d'intimité avec Dieu. Et vous voyez que la morale de l'Église, elle est d'abord par rapport aux vertus théologales. C'est parce que nous avons une fin divine, la béatitude, voir Dieu face à face, que est éthique. Je n'ai pas encore parlé des sacrements. Les sacrements sont des moyens pour perfectionner l'acte chrétien, pour que l'acte chrétien puisse être parfait. Alors il y a les sacrements. Mais la morale soutient, la vie chrétienne se définit indépendamment des sacrements. C'est très net dans l'évangile de Jean, c'est très net dans l'enseignement de l'Église. Les sacrements sont des moyens qui nous aident. Et le sacrement des sacrements, c'est l'Eucharistie, qui est un moyen tel qu'il touche à la fin. Puisque c'est un moyen qui nous donne la présence de Jésus, la finalité. De sorte que c'est un super moyen. C'est un moyen où la finalité est liée. Et l'Eucharistie va être ce qui va nous faire comprendre tous les sacrements. Alors, par l'Eucharistie, tous les sacrements sont très liés à la morale et à la morale chrétienne et sont, d'une certaine manière, inséparables. C'est par l'Eucharistie qu'il y a ce lien. C'est pour ça que les sacrements entreront dans la morale chrétienne et modifieront la morale chrétienne et que l'Église a le devoir de nous permettre de vivre notre vie chrétienne le plus pleinement possible grâce aux sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie, quand il est dans notre maison, montre la sollicitude merveilleuse de l'Église de nous permettre de vivre notre vie chrétienne avec le moyen par excellence lié à la faim, le pain quotidien, l'adoration quotidienne sera plus ça chaque fois que nous adorons le Saint-Sacrement. Nous remercions Dieu de demeurer dans sa maison. Et il est dit dans les psaumes des paroles qui sont merveilleuses. Demeurer dans la maison de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est le propre de la vie religieuse, de faire que l'Eucharistie est dans la maison. Tandis que chez le chrétien ordinaire, je ne dis pas normal, le chrétien ordinaire, l'Eucharistie est à l'église. Il faut qu'il sorte de chez lui. Et aujourd'hui, on voit très bien ce mouvement. Beaucoup de très bons foyers chrétiens voudraient avoir l'Eucharistie chez eux. Il y a comme une espèce d'alliance merveilleuse qui se fait entre les laïcs et les religieux. Alors, ce que je dis maintenant pour la morale tout court, la morale humaine, est vraie de la morale chrétienne, est vraie de la morale chrétienne et de la morale religieuse. C'est le fondement. L'étude du volontaire. Alors, c'est très net. Le volontaire est vu dans deux aspects différents. En politique, dans la famille. Vous voyez, et la morale va commencer par le point de vue politique ou par le point de vue familial. Et je crois que ce serait très intéressant de faire une topic historique très serrée pour voir que, de fait, tout le temps, il y a ces deux pôles, l'un ou l'autre. Puis il y en a un qui est premier et un qui est second. Il y a un ordre. Mais l'aspect moral, avec la responsabilité, se traduit, se manifeste avant tout dans nos relations avec les autres. Il y a bien une relation avec nous-mêmes, mais la manifestation la plus visible, c'est avec les autres. D'où les deux communautés les plus nettes, la famille et la communauté politique. On comprend très bien qu'il y a là deux aspects qui ne sont pas opposés, qui ne s'opposent pas, mais qui sont très différents. Et qui sont pour nous très différents. Qu'est-ce qui les unit ? La justice. Mais à l'intérieur de la famille, la justice est dépassée par un amour familial du père et de la mère, des enfants entre eux. La justice n'est pas première dans la famille. Je ne crois pas que pour chacun d'entre nous, si nous avons eu une famille chrétienne, une famille humaine, ça n'a pas été la justice qui a dominé dans la famille. C'est les vertus familiales, les petites vertus familiales, où l'amour dépasse tout. Tandis qu'une morale qui vient du point de vue politique, c'est toujours la justice qui domine. Et alors, on voit là deux pôles très intéressants. Et entre les deux, l'amitié, qui vient comme troisième pôle. Les vertus familiales, c'est l'obéissance. C'est la bonne entente entre le père et la mère. C'est les enfants qui vivent dans l'obéissance familiale. L'obéissance familiale est première. C'est vrai, quand on a une famille normale, on a très vite obéi. Et l'obéissance était la vertu dominante. Je crois que dans la famille, c'est comme ça. Avec plus ou moins d'amour. Prends ta soupe. Par amour pour ton papa. Par amour pour ta maman. Vous voyez ? On a tout de suite dit, on mettait tout l'accent sur l'amour. Sur la relation. Mais obéis. Alors, on rappelle que c'est par l'obéissance. Et c'est vrai, les vertus familiales, c'est l'obéissance. Et le point de vue politique, c'est la justice. Et entre deux, l'amitié. Il y a donc comme trois pôles. C'est très curieux, cela. Au point de vue historique, il y a bien trois pôles. Le pôle familial, le pôle politique, le pôle relation personnelle amicale, qui est au-delà de la famille, qui est au-delà du point de vue politique, et qui est peut-être le sommet de la morale personnelle en vue de quelque chose de plus grand, la contemplation. On aurait donc comme quatre pôles, très curieux, quatre pôles qui sont tout proches de nous, la famille, la patrie, les amis, la contemplation. Je crois bien que ces quatre pôles historiquement, on les verrait très nettement. Et on aurait par là quatre morales de nuances particulières. Une morale familiale, une morale politique, une morale personnelle, une morale divine. Et les quatre sont liés. Je peux vivre davantage de tel ou tel aspect, mais je ne peux pas les supprimer. Ils me sont très très liés. Puisque je dis que c'est le volontaire, la responsabilité qui vient de la volonté, qui est le caractère propre de l'acte moral. Je retrouve ce caractère propre de l'acte moral dans la famille, dans la morale familiale. Mais il est très lié à l'obéissance. Je retrouve ce caractère propre de la morale politique très lié à la justice. Je retrouve ce caractère moral dans l'amour d'amitié très lié au choix amical, qui est ni l'obéissance ni la justice, qui est autre chose. Et enfin, dépassant la morale, parce que on est en face d'une gratuité tout à fait particulière, une morale contemplative, c'est-à-dire mes rapports avec Dieu qui s'épanouissent pleinement dans une morale chrétienne, et où la gratuité remplace la responsabilité. Elle ne la remplace pas, mais assume la responsabilité. Et c'est la gratuité qui domine. Vous voyez, c'est bon d'avoir ce tissu radical qu'on parle de morale, de garder ces différents pôles. On voit que la morale naît et s'épanouit avec des caractères différents. Et c'est très vrai. Vous voyez, l'aspect moral dans l'amitié est tout autre que l'aspect moral de la famille, est tout autre que l'aspect moral politique, est tout autre que l'aspect contemplatif. Vous avez là quatre plans, quatre notes dominantes. Si vous en voyez d'autres, vous me le direz. Mais là, c'est très caractéristique, ça. Et historiquement, on le voit. On voit très bien que ces quatre modifications morales ont existé. Alors, je vais commencer par voir ce qui caractérise le point de vue moral dans la naissance de la morale familiale, dans le point de vue politique et dans le point de vue de l'amitié. C'est très particulier de voir que le moral le volontaire a des modalités diverses que le volontaire se développe en moi de façon diverse, mais qu'on retrouve toujours avec des nuances particulières, ce volontaire dans la morale familiale, dans la morale politique, dans le point de vue de l'amitié et dans le point de vue divin. Avant tout, ma vie morale réclame une certaine finalité. J'avis en vue de, pour obtenir cette fin. Le point de vue moral est toujours ordonné à la finalité. C'est vraiment la fin. Prends ta soupe pour faire plaisir à papa. Et très vite, on a mis ces premiers plis entre le point de vue moral d'un bien relatif, d'un bien partiel, relatif à un bien absolu. Et on ne vous l'a pas dit, hein. On vous a simplement dit ça, hein. Avec insistance, prends ta soupe. Il faut que tu prennes ça, ou prends ton médicament, parce que papa le demande. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, il faut l'obligation qui vient et qui naît de cette finalité. S'il fallait simplement prendre ce médicament, ben, on n'aurait pas dit il faut. Ben, il prend le. Ça te fera du bien. Ah, ça te fera du bien. Donc, finalité. Tout le temps. Donc, le point de vue moral naît dans cette distinction du bien absolu, du bien relatif. Il y a une première distinction. Et je vous disais, il y a quelque chose d'analogue entre cette distinction que je fais en métaphysique, entre la substance et l'accident. En métaphysique, je sais ce que c'est que l'induction qui me conduit à la substance. Et dès que j'ai saisi cette substance, je m'aperçois de l'existence de tous les accidents. En pratique, tout est beaucoup plus confondu. Tout est beaucoup moins lumineux. Ta soupe pour faire plaisir à papa. Pour faire plaisir à papa. Faire plaisir. C'est le bien suprême, faire plaisir à quelqu'un. Et pas n'importe qui, c'est papa. Alors, petit à petit, naît cette induction à laquelle je réfléchis au point de vue philosophique. Quand je suis plus grand, je ne demande pas à l'enfant de réfléchir là-dessus. Pour Aristote, on ne peut pas faire de philosophie éthique, de philosophie morale, quand on est trop jeune. Parce qu'on est passionné. Et les passions interdisent de voir clair. Et pourtant, au début, tout ça est un peu noyé dans une affectivité plus ou moins grande. La soupe ne me dit rien du tout. Elle a une drôle d'odeur. Ça n'inquiète pas mon appétit. L'amour de papa, c'est lointain, mais ça me dit quelque chose quand même. Et j'arrive à une induction pratique, très curieuse, d'un moyen ordonné à la fin. Je crois que je suis lié à ça. Tout de suite, je vois que le bien apparaît différemment. Et avec le bien, il y a mon attitude subjective, volontaire. Ce bien secondaire, second, qui est le remède, qui est la soupe. Ce bien s'illumine par un bien plus éloigné, qui n'est pas trop proche. Un bien, quand il est trop proche, il s'use. Et il n'y a plus assez d'attraction. C'est curieux. Et on s'en aperçoit. Il y a le bien qui attire, le bien général attire, puis le bien immédiat que je consomme, que je prends. Tout l'amour vient de là. Il y aura donc, au point de vue activité morale, tout de suite cette distinction. L'amour d'un bien particulier, commandé par l'amour spirituel. Je crois que c'est la première distinction. L'éthique morale commence par cette première distinction. Vous voyez, comme en métaphysique. Tant que je n'ai pas saisi la substance, je n'ai pas saisi l'être. Tant que je n'ai pas saisi le bien, peut-être lointain, peut-être moins immédiatement présent, mais qui est un bien absolu, que je ne peux pas mettre en doute. Je peux discuter que la soupe est mauvaise, elle est bonne, c'est pas ça, c'est pas cette horloge, la veut, tout ça. Elle est trop froide, elle est trop chaude, elle est trop, c'est tout ce que vous voulez. Et papa, je ne discute pas l'enfant. C'est le propre de l'enfant. Il ne discute pas son père. Quand il commence à le discuter, il n'est plus un enfant. L'enfant disparaît. Et l'absolu, à l'égard de ce bien, disparaît. Si un autre le remplace, c'est très bien, mais s'il n'y en a pas qui le remplace. Vous voyez ? S'il n'y en a pas qui le remplace, je ferai n'importe comment. Et le caprice commencera. Tout est relatif. Il n'y a que Dieu. C'est très curieux. C'est capital, au point de vue moral, de discerner l'orientation absolue vers la fin, le bien en lui-même, le bien aimé pour soi, et l'amour d'un moyen aimé pour l'autre. Il y a donc deux volontaires. Le volontaire de la fin, qui a commencé très différemment pour chacun d'entre nous, et qui est différent, le volontaire à l'égard du Père, l'autorité du Père, l'amour du Père, l'amour de Dieu. L'amour plus intime de Jésus. Il y en aura là des trois grandes intentions du point de vue moral. L'intention à l'égard d'un bien qu'on a à l'intérieur de la famille. Et l'intention du bien au-delà du point de vue de tout ce que je peux voir. Et de nouveau, l'intention à l'égard d'un bien que je peux toucher, le bien de l'agneau de Jésus. Et ce premier amour vis-à-vis de la faim, c'est l'amour de la faim. Jésus, ma volonté s'éveille dans l'amour. C'est depuis Descartes que la volonté ne s'éveille plus dans l'amour. Pauvre Descartes. Et c'est très important, ça. À partir de Descartes, la volonté n'est pas une faculté pour aimer. Et l'amour, l'affectivité n'est plus spirituelle, premièrement spirituelle, et elle devient sensible, purement sensible. Elle devient passionnelle. Alors, il faut s'en méfier, la passion, puisque certains ont dit même que la passion était mauvaise. C'est très curieux de voir que ce premier moment volontaire, c'est l'amour spirituel. C'est pour ça qu'on pourra dire qu'il n'y a pas d'acte moral sans amour. Parce que la volonté à l'égard d'un bien absolu, c'est l'amour qui s'éveille. L'amour de la soupe dépend de l'amour que j'ai du Père.